Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons parler aujourd'hui du vice de l'orgueil, de manière à tout faire pour y échapper, et hélas, nous allons constater combien ce vice est présent chez beaucoup d'hommes, peut-être plus encore chez les traditionalistes. Ce vice est en effet un vice qu'on rencontre plus facilement chez ceux qui ont des qualités et qui peuvent s'en enorgueillir que chez ceux qui n'ont pas de qualités et qui peuvent avoir d'autres vices, mais enfin, au moins, n'auront pas celui de l'orgueil. Saint Thomas, lorsqu'il étudie le vice de l'orgueil, commence par donner une définition générale, qui est celle que l'on retient habituellement, à savoir que l'orgueil nous fait prétendre volontairement à ce qui nous dépasse. L'orgueilleux est celui qui vise plus haut que ce que Dieu a voulu pour lui. En réalité, cette définition est une définition, une première définition, mais qui ne va pas encore au fond des choses. Et saint Thomas, lorsqu'il poursuit l'étude de l'orgueil, arrive à une définition beaucoup plus profonde et donc beaucoup plus grave, à savoir que l'orgueil est le mépris de Dieu. L'orgueil est une imitation perverse de Dieu. Il déteste en effet l'égalité avec les égaux sous la dépendance de Dieu et veut au contraire leur imposer sa propre domination à la place de celle de Dieu. C'est ce qu'on retient, que l'orgueilleux s'impose aux autres. Mais on oublie trop facilement que cela est une conséquence de ce que l'orgueilleux soit refuse de dépendre de Dieu, soit se prend pour Dieu lui-même. Il y a quatre espèces d'orgueil. Soit estimer que le bien qu'on possède vient de soi, de soi-même, l'orgueilleux. Soit penser qu'on l'a reçu, quand on admet qu'on l'a reçu, mais qu'on l'a reçu à cause de ses mérites, alors que c'est un don. Soit prétendre avoir ce qu'on n'a pas. Enfin, quatrième espèce d'orgueil, mépriser les autres et désirer paraître posséder seul ce que l'on possède. Or, il est manifeste que sur ces quatre vices, quatre espèces d'orgueil, trois tentent particulièrement les traditionalistes. Si cela est visible dans la Fraternité Saint-Pédis, il est une évidence que si l'on n'y prend pas garde, ce vice profond se retrouvera chez ceux de la fidélité catholique. La glissade des catholiques dans l'orgueil, lorsqu'ils ont été traditionnalistes et qu'ils ont compris les vices de l'Église moderne, cette glissade s'est faite sans s'en rendre compte. Et si l'on n'y fait pas attention, la même glissade se produira dans la fidélité catholique. En effet, nous sommes très tentés de croire que notre fidélité dans la foi, notre connaissance de la foi, notre capacité à juger le vice du modernisme est une capacité, donc une qualité qui nous vient de nous et nous avons beaucoup de mal à en rendre grâce à Dieu. Lorsque on admet que cela est un don de Dieu, on estime très facilement que nos mérites sont la cause de ce que Dieu nous a donné. Je ne dis pas que l'homme ne mérite pas, mais la grâce qui est donnée par Dieu précède tout mérite. La grâce est la racine du mérite, et elle vient avant le mérite. Si les traditionnalistes ne sont peut-être pas tentés de se vanter d'avoir ce qu'ils n'ont pas, encore que, en tout cas, facilement ils méprisent les autres, et ils se croient les seuls détenteurs, non seulement de la vérité, mais même de la sainteté. Et c'est pour cela que Mgr Williamson a longtemps insisté sur les qualités qu'on trouvait en dehors de la tradition. Et évidemment, dire que ces qualités sont présentes dans l'Église moderne serait dangereux et même faux si on les attribuait à l'Église moderne, qui d'elle-même fait des orgueilleux, ça c'est le moins qu'on puisse dire, encore plus que les traditionalistes. Pourquoi fait-elle des orgueilleux? C'est Gaudium et Spes, le texte majeur du Concile, au témoignage du cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI. À savoir que Gaudium et Spes enseigne, ni plus ni moins, que le Saint-Esprit est au service de l'homme qui transforme la création pour l'améliorer. C'est une totale inversion. Nous ne disons pas que l'homme n'améliore pas certaines choses dans la création, encore qu'il n'améliore pas grand-chose, et puis s'il l'améliore, c'est par référence à quelque chose que Dieu a déjà fait, et puis c'est par l'intelligence que Dieu lui a donnée. Mais c'est tout à fait autre chose, Gaudium et Spes. C'est une vision du monde en perpétuelle évolution vers un point oméga, dixit Teilhard de Chardin, vers un progrès indéfini. C'est l'homme qui est l'artisan de ce progrès indéfini, et la grâce, le Saint-Esprit, qu'on appelle esprit tout court, est une qualité de l'homme, et Dieu est au service de l'homme pour le progrès de l'humanité. Le but n'est pas de rejoindre Dieu dans son éternité, le but est un progrès indéfini, et si notre Seigneur est venu sur terre, c'est pour favoriser ce progrès. Donc il est évident, vous disais-je, que d'affirmer le bien qui se fait dans l'Église moderne, si cela laisse à croire que cette Église est capable de transmettre un vrai bien et de vraies vertus, cela c'est faux. Mais affirmer que Dieu travaille et suscite des personnes humbles en dehors même de la tradition, ce qu'on appelle les traditionalistes, alors ça c'est très important, parce que c'est rappeler que tout vient de Dieu et que Dieu continue à agir là où il veut. Et c'est rappeler aux traditionnalistes que s'ils continuent à s'enorgueillir, Dieu les laissera tomber. Il punit les orgueilleux, il déteste les orgueilleux, dit l'Écriture sainte. Celui qui est à la première place se retrouvera à la dernière. Dieu les laissera tomber. Et si encore il les laissait tomber dans des vices honteux, cela pourrait les réveiller. Mais il les laissera tomber dans leur orgueil. Les traditionalistes ne s'apercevront pas qu'ils ont pris la place de Dieu. L'orgueil est vraiment, vraiment le vice de notre époque. Pourquoi ? Parce qu'il est une révolte contre Dieu, et vous avez 2 degrés dans la révolte. Vous avez la révolte simple qui ne cherche pas tellement à se justifier, mais à profiter. Et vous avez la révolte profondément vicieuse qui non seulement méprise Dieu, mais justifie de mépriser Dieu. Et cela, c'est toute la philosophie du peuple de l'Ancien Testament qui, lorsqu'il refuse le Christ, non seulement le refuse, mais va justifier son refus. Et l'on voit que la philosophie juive, Spinoza notamment, mais pas lui seulement, est une philosophie qui cherche à se passer de Dieu, à le garder bien entendu, parce que sinon il n'y a plus rien, mais tout en gardant Dieu, à se passer de lui et à le mettre au service de l'homme au lieu que l'homme soit au service de Dieu. Je crois vous avoir déjà cité cette phrase d'un livre que j'ai acheté sur la Kabbale. Que la Kabbale a-t-elle apporté aux hommes ? Réponse du livre. La Kabbale a apporté aux hommes la conscience que Dieu a besoin d'eux. Et la suite se perd dans des grossièretés, mais les pages suivantes continuent, justement dans le même sens que Gaudium et Spes, l'homme est au travail dans le monde pour le faire évoluer. Comment les traditionalistes sont-ils tombés dans ce vice ? Parce que de la certitude de la vérité, qui aurait dû les mettre dans l'humilité, Dieu a eu la grande bonté de les maintenir fidèles, ils ont trouvé cela normal. Trouvé ça normal à cause de leur éducation, à cause de leur milieu, à cause de leur nom, à cause de leur place dans la société, etc. Et Dieu les punit fortement en ce moment. Alors faisons bien attention, mes bien chers frères. Faisons également attention dans la vie moderne que tout tend vers l'orgueil. Tout le monde moderne travaille à nourrir l'orgueil. Une sorte de puissance sur la matière qui fait croire à l'homme, d'une part, qu'il est tout-puissant, qui lui fait oublier que la puissance sur la matière n'est rien, c'est l'esprit qui est quelque chose, et qui fait donc oublier à l'homme son esprit et donc sa soumission à Dieu. Et méfiez-vous, mes bien chers frères, de l'influence de ce mode de vie, qui est un mode de vie orgueilleux, qui pourrit les familles si on n'y fait pas attention. Notamment par l'abus de la liberté. Il s'agit plus, en réalité, d'indépendance, d'insoumission, que de liberté. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle d'habitude. Enfin, il faut rectifier les termes, parce que justement, l'emploi de mauvais termes a des conséquences toujours néfastes. La liberté est une belle chose, mais la liberté nous rappelle que nos choix sont faits par rapport à Dieu. Quelqu'un est libre de se faire bénédictin, se marier. Pourquoi est-il libre ? Parce que c'est à lui de réfléchir sur le meilleur moyen de servir Dieu. Mais il n'est pas libre de faire ce qu'il veut par caprice. Parce que cela, c'est plus de la liberté, c'est l'abus de la liberté. Et cet abus de la liberté vient d'un manque de soumission à Dieu ou d'une volonté de ne pas se soumettre à Dieu. Et on se justifie de cette insoumission en prétendant que Dieu nous a donné la liberté et que si la liberté est libre, alors elle fait ce qu'elle veut. Et ça, c'est un abus de langage et un abus de la réalité. Le monde moderne cherche à susciter cette indépendance chez tous ceux qui doivent dépendre. C'est la démocratie qui refuse la dépendance envers les supérieurs. L'homme ne dépend que de lui-même, finalement il tombe dans la tyrannie. Et si ça pouvait le réveiller. C'est le féminisme qui est le refus de la dépendance de la femme envers l'homme dans la famille. Et puis, c'est l'émancipation des enfants. Et là, il faut faire très attention. L'orgueil est un vice qui se trouve facilement chez les adolescents, mais qui est contenu chez les adolescents, parce que dès qu'ils deviennent orgueilleux, ils tombent dans des sales vices. Et cela leur monte, ça leur rabat le caquet. De même, quand ils deviennent orgueilleux et se croient capables de tout sans l'aide des parents, très vite ils arrivent à l'échec. Et cela encore leur rabat le caquet. Mais de nos jours, on fait tout pour susciter l'orgueil des enfants, des adolescents, je veux dire, les enfants aussi, mais bon. L'orgueil des adolescents, on est dans l'admiration des adolescents. On leur laisse une liberté fausse, qui n'est pas de la liberté, qui est de la licence. Très facilement, l'adolescent tombe là-dedans. Je suis persuadé que tous les vices contre la chasteté ne viennent pas de l'orgueil. Il y en a qui viennent de la faiblesse et même de l'ignorance d'ailleurs, certains. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne cause pas du dégât. J'ai connu des jeunes qui péchaient contre la chasteté par ignorance. Ça crée quand même une blessure et après ça, quand ils veulent en sortir, c'est très difficile. Mais très souvent, très très souvent, les manquements à la chasteté viennent de l'orgueil. Et en tout cas, les manquements à la chasteté, quand ils ne viennent pas de l'orgueil, suscitent l'orgueil. Pourquoi ? Parce qu'il faut se justifier, et puis parce que, surtout, il y a une attention exagérée portée à soi-même qui fait qu'on ne porte plus attention à Dieu. L'orgueil est-il un vice général ? La question posé par saint Thomas d'Aquin. L'orgueil peut engendrer tous les péchés, directement parce qu'il met tous les péchés à son service. Et indirectement, parce que, refusant la soumission à Dieu, il brise la loi et tous les obstacles au vice. Et c'est ce que je vous disais par rapport aux adolescents. Lorsqu'un adolescent refuse de se soumettre, les obstacles au vice que Dieu avait posés à travers les parents, qui dans leur sagesse disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ces obstacles disparaissent et on tombe dans les pires vices. Et saint Thomas continue son analyse. Un péché peut détruire la vertu de deux façons. Premièrement, parce qu'il est directement contraire à la vertu. Et en ce sens-là, l'orgueil ne détruit pas toutes les vertus, mais seulement l'humilité. Et deuxièmement, parce qu'il use mal de la vertu elle-même. Et ainsi, l'orgueil détruit toute vertu, en tant qu'il prend occasion des vertus pour s'enorgueillir. C'est ce que je vous disais pour commencer. La vertu peut être réelle, mais elle peut être détournée par l'orgueil, et alors évidemment elle devient un vice. Et on trouve cela partout. Lorsque saint Thomas d'Aquin pose la question de savoir si l'orgueil est un péché, c'est là qu'il en arrive à cette considération, et lorsqu'il étudie est-ce le plus grave des péchés, il dit, si on regarde ce vers quoi tend l'orgueil, c'est pas encore cela qui est le plus grave. Tendre à des hauteurs qui ne sont pas pour nous. Mais si on regarde le motif, alors là, ce motif est le plus grave. C'est le péché de Lucifer, c'est le péché des anges, et c'est le péché du premier homme, c'est un non serviable, je ne servirai pas, c'est un refus de soumission à Dieu. Et c'est un péché gravissime, ce qui fait que lorsque saint Thomas demande si l'orgueil est un vice capital, il dit « il est bien pire qu'un vice capital, il est au-dessus des vices capitaux ». C'est-à-dire que c'est lui qui prend la tête de file des sept péchés capitaux, lesquels, à leur tour, engendrent tous les autres péchés. Et vous me direz, mais l'orgueil est bien le premier des vices capitaux. En réalité, non, c'est la vaine gloire. Et la vaine gloire est un fruit de l'orgueil. Le premier des fruits de l'orgueil. Mais l'orgueil est au-dessus, comme je viens de vous l'expliquer. L'orgueil est le premier péché à naître facilement, et lorsqu'il est enraciné dans une âme, il est le dernier péché à disparaître. Parce que, justement, étant plus profond, il est plus difficile de le chasser. Quels sont les remèdes à l'orgueil ? Tout d'abord, la considération de la grandeur de Dieu. Comme je vous le disais à propos de l'humilité, enfin, le remède à l'orgueil, c'est l'humilité. Donc, tous les degrés d'humilité sont des remèdes à l'orgueil. Et il y a, comme je vous le disais la dernière fois, une considération intellectuelle qui précède la volonté. Cette considération intellectuelle, c'est la grandeur de Dieu et le fait que nous lui devons tout ce que nous avons. Un deuxième remède à l'orgueil, c'est la vanité des biens ici-bas. Quand on s'aperçoit vers quoi porte l'orgueil, cela a de quoi nous faire réfléchir. Est-ce que vraiment nous sommes des super-hommes du fait que nous sommes riches, ou voire même du fait que nous sommes traditionnalistes? Est-ce que cela fait de nous des saints? Vers quoi court-on? On s'aperçoit que les traditionnalistes, très vite, ne courent plus après la perfection qui était celle de leur début, mais ils se satisfont de choses qui, en soi, n'ont pas tant de valeur que cela. Tout d'abord, des belles églises, par exemple, et puis maintenant, de façon, parce qu'on tombe lentement, n'est-ce pas, maintenant, est en accord avec le monde. Est-ce que cela valait vraiment la peine? Alors, pensons aux litanies de l'humilité, composées par le cardinal Méry-Delval. Je vous en mets le texte sur mon site. Pensons au Magnificat de la Très-Sainte Vierge et supplions le bon Dieu de nous préserver de ce vice si fréquent et pourtant si peu visible par celui qui en est atteint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.